Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Emmanuel Messner et Michel Vandel pour parler de l'histoire du ski de fond sur la vallée de la Clarée et Briançon. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et bonjour Michel.
Bonjour.
Alors une petite présentation.
Bonjour à tous. Donc moi je suis maintenant une habituée de la radio Fréquence Mistral parce que vous m'avez rencontrée une première fois. J'ai présenté mes activités au sein de Go Nordique. On est une école de ski de fond et de biathlon du Briançonnais. Mon associé c'est Thierry Gonon qui est un personnage local. Tout le monde le connaît. Je suis simplement monitrice de ski de fond et j'exerce à titre indépendant sur tout le Briançonnais.
Et Michel ?
Michel Vandel, je suis jurassien, je viens de Bois-d'Amont. Et je suis venu ici par la force des choses parce que avant j'étais mécanicien de précision. Je voulais quitter la France pour aller travailler en Suisse. Et avant, quand je suis venu ski de fond, j'en ai fait tout gosse. En allant à l'école, je faisais de la compétition. J'ai laissé tomber le ski de fond parce que je préparais mes diplômes. Et à l'époque où je suis venu dans la vallée de la Guisane, le ski de fond n'était pratiqué que par les militaires, les douaniers. Après, on m'a demandé de lancer le ski de fond à l'UCPA. On a relancé le ski de fond à l'UCPA. C'est l'UCPA qui a recréé le ski de fond. Après, j'ai travaillé à l'école de ski de Villeneuve, la salle. On a développé le ski de fond. Une fois que le ski de fond s'est bien développé, bien, toutes les écoles ils sont remis au ski de fond.
Une vie de ski de fond.
Une vie de ski de fond.
Et concernant l'histoire ?
Alors l'histoire du ski de fond, écoutez, on tient déjà à préciser que nous ne sommes pas loin d'être des historiens. On a essayé de reconstituer un historique du développement du ski de fond de toutes les vallées, donc vous avez dit Briançon et Serchaux, mais il y a aussi eu un développement dans la vallée de la Valouise, il ne faut pas oublier, la Clarée simultanément, autour de Briançon, surtout sur Villars-Saint-Pancras et la Guisane. Donc ça, on a essayé de recréer un petit historique, mais justement, on va mettre beaucoup de réserves parce qu'on est loin d'avoir fait le tour du sujet. C'est simplement pour vous donner un petit peu nos impressions sur une histoire qui démarre peut-être dans les années 20 et qui ira jusque dans les années 70-80. L'histoire plus contemporaine, on pourrait en parler une autre fois.
J'ai contacté des personnes, des vieilles personnes qui ont travaillé avec moi à l'UCPA. J'ai appris par eux qu'avant de faire du ski alpin, il y a du ski de fond. Que ce soit dans la vallée de la Guisane, la vallée de la Clarée, à Villars-Saint-Pancras et à Valouise. Alors dans ces villages, il y avait des gars qui étaient très forts. Rick et Jex à la Guisane, Warren à la Vachette, les Raymond à Valouise. Il y avait également à Rémy Colomban à Villars-Saint-Pancras. C'était vraiment, ils faisaient du ski de fond. Ils ont recommencé le ski de fond de compétition. Puis après, avec l'avenue des remontées mécaniques, ces personnes-là qui faisaient du ski de fond dans la vallée de la Guisane, Valouise, ils sont mis au ski alpin, ils ont délaissé le ski de fond. Après les Jeux Olympiques de 68, le ski de fond a démarré, il y a eu un renouveau. Alors il y a eu les militaires, les douaniers, les gendarmes faisaient toujours du ski de fond. Les écoles de ski, qui ne faisaient pas partie de l'école de ski française, qui étaient à part, comme les clubs du CAF, les trucs comme ça, qui ont lancé le diplôme de ski de fond. Et ensuite, après, il y a eu un renouveau du ski de fond. Il y a les clubs qui sont développés, les civils qui sont mis au ski de fond. Mais pour pouvoir faire du ski de fond correctement, ils ont été engagés par les gendarmes, par les douaniers, par les HM, pour former l'équipe de France. Et dans le temps, quand j'ai couru dans le Jura, j'ai couru avec une fille qui s'appelait Colette Chavet-Noir, qui était monitrice à Serre-Chevalier, qui faisait partie de l'équipe de France. Et je parle de ça en 56-57. Et après, l'équipe de France féminine a été dissoute, avec les garçons qui couraient. Et cette personne, Colette Chavet-Noir, est venue monitrice de ski de fond, de ski alpin à Chantemerle. Mais elle a pratiqué toujours un petit peu le ski de fond, mais c'était fini, quoi. C'est nous, après, le renouveau après 68, que le ski de fond s'est démarré dans la vallée. Il y a eu une évolution énorme. Malheureusement, le ski de fond, ça demande beaucoup de travail, un peu délaissé par les responsables de vallée. Et il y a une demande de ski de fond qui existe, mais qui est délaissée par soi-disant des responsables.
Alors moi, je tiens à préciser ce que dit Michel. Effectivement, l'essor du ski de fond a été reboosté par les Jeux Olympiques. Et tu n'as pas précisé, c'était les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Et là, on a vu les premières compétitions télévisées, reportées. Donc du coup, ça a donné beaucoup de renouveau à cette pratique du ski de fond et l'envie du développement. Les belles années du ski de fond sont effectivement après 68 dans toutes les régions de France. Voilà, un petit peu pour préciser. Et ce que je voulais dire également, c'est que Michel n'a pas assez insisté sur le fait que, effectivement, ce sont les militaires, beaucoup, qui ont participé au développement. Il ne faut pas oublier que Briançon, ça a toujours été une place forte militaire. Et déjà, avant les années 1900, les premières troupes de montagne arrivaient de Nice.
c'était de l'infanterie de montagne. Après, ça deviendra le 9-9, les chasseurs alpins, et après le 15-9. Mais effectivement, comme l'a dit Michel, les premiers concours de ski étaient essentiellement militaires et non pas destinés aux civils. Les premiers civils qui ont commencé à courir, il l'a cité, c'était Rick Echex. Mais avec lui, en même temps, il y a eu d'autres personnes. Excusez-nous, encore une fois, pour les gens qu'on risque d'oublier, il y avait un Milo Gauthier, un Milo Corsial, un Germain Turc, peut-être aussi un monsieur Blanchard, qui ont aussi été des personnalités dans la pratique du nordique dans le Briançonnais. Je connais moins monsieur Voiron, mais apparemment, il était très très fort. Peut-être était-il gendarme. Et je tiens aussi à préciser, du côté de Monnetier, peut-être un petit peu plus tard, monsieur Duport, qui a créé aussi un magasin qui était la référence en termes de nordique, puisqu'il s'appelait le Stavuk, ce magasin. Et du côté de Monnetier, il y a eu également des personnalités, donc comme ce monsieur Duport, qui ont participé au développement du nordique.
Au départ, comment faisions-nous les traces, Michel ?
Bien, au départ, moi, quand j'avais la main traînée pour faire le ski de fond, ben, je trace à ma piste, à ski. Je faisais une boucle de 3-4 km. À force de passer, ben, je faisais les traces pour m'entraîner. Après, avec les militaires, les gendarmes, quand je m'entraîne avec eux à Montgenèvre, c'était la même chose au début. On traçait la piste à ski. Les concours de ski, que ce soit à Montgenèvre, à Villers-Saint-Pancras, à Val-Louise, on traçait, c'était les skieurs qui traçaient la piste et on courait dessus. Et je me souviens qu'une fois, j'avais gagné cette course-là à Val-Louise, c'est le ski classique. Et bien le matin, quand on est arrivé, dans la nuit, ça va neiger. Le matin, on départ de course, tous les coureurs, on traçait la piste à Val-Louise. Et ensuite, après, ça s'est mécanisé, les scotters. Alors, on a un scotter des neiges. On tractait un traceur, on traçait mécaniquement. Et actuellement, ce sont des appareils qui sont très gros, hein, qui sont aussi gros que les dameuses de ski alpin. Et en plus, quand on traçait à ski, bon, on allait un peu partout. Mais après, avec les appareils mécaniques, il y a les arbres, il y a les prés des agriculteurs qui commencent à rouspéter parce qu'on abîme les champs, tout ça. Alors que dans les grandes stations, dans le genre, les trucs comme ça, ils ont tracé des pistes pour débarder le bois, qui sont des chemins forestiers, tout ça. L'impact est moins dur, moins pénible sur le terrain. Alors, piste de fond en classique, doublé en skating.
Et au niveau des ski clubs ?
Alors, après quelques petites recherches, effectivement, je pense que c'est dans les années 25 jusqu'à 35, je pense, là, le début de la création des clubs. Mais comme disait Michel, avant, chacun courait un petit peu dans ses villages. Hein. Il y avait quelques petites organisations de compétition, mais les premières associations de skieurs ont vu le jour dans les années 1925 et plus. En parallèle, s'est développé également le saut à ski. Hein. On a un petit peu délaissé ça, qui est une activité purement nordique. Et le Briançonnais a lui aussi pu organiser des sauts à ski, notamment à Montgenèvre, je crois. Il y avait aussi un tremplin au fort vers le Fontenil. Et puis également à Serre-Chevalier, à la Ravet. Voilà. Et ça, donc avec les mêmes skis, on faisait un petit peu tout. Hein. On faisait à la fois du ski de fond. Pour les jeunes skieurs, c'était un peu surprenant parce qu'on avait les mêmes skis. Donc aussi bien du saut que du ski de fond. À l'époque, comme disait Michel, alternatif, hein, la technique classique. Le skating est arrivé dans les débuts des années 80. Et les clubs un peu historiques de la région, on peut citer l'Étoile sportive valousienne, hein, qui a marqué son temps, et également l'Edelweiss, évidemment, avec Rémi Colomban à la tête, et qui a généré toute une famille de skieurs derrière qui ont perduré, et un club toujours actif, bien évidemment, l'Edelweiss de Villars-Saint-Pancras, qui est aussi le club de Briançon, bien évidemment.
Et ensuite, après, c'est Vandel, l'usine Vandel de Voilemont, qui a fait les premiers skis avec la semelle plastique. Et ensuite, après, Fischer a pris le modèle, le Rossignol. Alors ça a évolué, question des matériaux, c'était du carbone, c'était des fibres, c'était le bois rentré en ligne de compte, mais peu, de moins en moins. Les skis de fond en bois, ils étaient très légers aussi, surtout les pays nordiques, ils avaient des très bons skis, ils couraient presque tous sur des pays nordiques. Parce que les skis étaient supérieurs aux Vandel, parce qu'ils étaient beaucoup plus en avance que nous. Puis après, avec les nouveaux matériaux, le carbone, les fibres, ça a rendu les skis plus légers, plus performants, et les semelles plastiques. On a fait le fartage, un produit qu'on met sous les skis, suivant la qualité de la neige, qui empêche de reculer, mais qui n'empêche pas de glisser. Et après, il y a eu l'évolution, parce que le fartage, il fallait connaître un peu la qualité de la neige, c'est pas tellement dur, mais il faut s'y mettre. Il y a eu les skis de fond ben, pour les touristes, à écailles, à pluche, qui supprime complètement le fartage. Et ensuite, à présent, avec le skating, on farte. À place de farter d'une façon retenue, on farte la glisse. C'est comme si on fartait une paire de skis alpins. et on va beaucoup plus vite. C'est pas le même genre de ski.
Alors moi, je tiens à préciser, pour avoir pas mal travaillé dans le milieu également du ski, le bois reste un matériau noble dans la construction du ski. Même dans les skis actuels haut de gamme, les noyaux sont encore en bois très léger. On appelle ça une construction en nid d'abeille. Et notamment, une grande marque, on va pas citer, mais a des noyaux. En fait, cette marque fait également des constructions dans l'aéronautique. Et comme la construction de nid d'abeille est très solide, rapport solidité poids, on trouve également ce même matériau dans l'aéronautique, dans la construction des ailes, des avions et des planchers également. C'est une petite précision, le bois reste quand même un matériau encore utilisé, malgré évidemment toutes les autres fibres de verre, fibres de carbone et matériaux plus ou moins plastiques. On a oublié un petit peu parler de l'évolution également des fixations, qui sont aussi dans l'histoire. Ben, au début, tout début, hein, en fait, déjà l'homme de préhistorique se déplaçait avec des skis, hein, il ne faut pas oublier. Donc il avait déjà trouvé un moyen de locomotion avec un ski qui glissait et l'autre en appui, tout simplement, comme une espèce de raquette. Et là, évidemment, c'était simplement des lanières, certainement de cuir, qui maintenaient le pied sur la chaussure. Et ensuite est venue les premières fixations en métal. Et on avait des fixations à câble pour maintenir le pied sur le ski. Au début, seul l'avant du pied était maintenu. Évidemment, avec l'avènement du ski alpin et le développement local, notamment du ski sur le Briançonnais dans les années 40, après, l'ensemble du pied était fixé. Les gens sont partis sur l'alpin, c'est autre chose. Le ski de fond, après, il y a eu des normes 75, avec des chaussures très larges, on appelait ça bec de canard, avec une fixation à l'avant, avec des chaussures cuir pour les hauts de gamme et des chaussures plus caoutchoutées pour les entrées de gamme. Une révolution dans les fixations fut l'arrivée de la marque, on va la citer, Adidas, qui a créé une première fixation beaucoup plus précise. Alors là, peut-être Michel rajoutera la date, je ne sais plus exactement dans quelle année, je ne peux pas dire. Le concept était une chaussure plastique, très performante, très légère, avec un très bon maintien. Et Adidas a laissé la place à Salomon, et on connaît l'historique après avec toute l'histoire de la fixation Salomon. Et parallèlement, s'est développée la chaussure d'autres marques, dite NNN, une autre fixation. NNN, c'est une marque qui était très développée dans les pays scandinaves, c'est 3N. C'est aussi Rotefella, la marque Rotefella. Donc, en parallèle, donc, a eu ces deux développements de fixation, que ce soit la norme Salomon, qui n'était pas compatible avec la norme Rotefella. À ce jour, tout va s'uniformiser au grand bonheur des loueurs de ski et des pratiquants pour une seule norme. Ça sera beaucoup plus simple.
Et au niveau des personnalités ?
Écoutez, je suis mal placée quand même pour parler des personnalités qui ont œuvré pour le développement du ski de fond, parce qu'une fois de plus, on met vraiment un bémol avec Michel. Hein. Nous sommes, nous, des pièces rapportées dans le Briançonnais. Mais quand même, on a trouvé souvent Rick Echex, qui était très très fort en ski de fond. On a Monsieur Victor Shaw, qui a beaucoup œuvré également pour le développement du ski de fond en Val-Louise. Rémi Colomban, qui a maintenant, je crois, 93 ans. Il nous a reçus avec plaisir. On remercie tous ces gens qui ont participé également à élaborer cet historique. On a aussi M. Voiron, hein, qui était effectivement de la Vachette, qui a marqué de son nom l'historique. Et surtout Milo Gauthier, qui était originaire de la vallée de la Clarée, mais qui s'est installé en Guisane. Donc ça, c'est des gens importants. Michel veut rajouter quelque chose, peut-être ?
Oui, également, peut-être pas tellement dans le Briançonnais, mais aussi de côté de Barcelonnette. C'était le 11e chasseur alpin à Barcelonnette. Annecy, il y avait un régiment de chasseurs alpins ici, eux qui faisaient des concours de ski, qui avaient des gars, des personnes qui, comme dans tous les pays de neige, qui étaient très forts, quoi, qui ont œuvré pour le développement du ski de fond, qui s'est fait surtout grâce à l'armée, à la douane, aux gendarmes.
Et on rappelle aussi un point important, Emmanuel.
Je pense que tout a basculé ici dans la région. Une année qui a marqué l'histoire du ski, du développement du ski dans le Briançonnais, c'est la création et l'inauguration du téléphérique le plus long d'Europe à l'époque. C'était à Chantemerle qui était le téléphérique et qui a été inauguré en 1941 pendant la guerre. Et là, ça a fait vraiment basculer l'histoire du ski de fond au profit de l'alpin. Et je tenais à le préciser encore parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées à ce moment-là. C'était facile, effectivement. Après, il y a une histoire beaucoup plus contemporaine qu'on a un petit peu volontairement occultée. Il y a des noms qui ont marqué l'histoire. Hein. On ne va pas les citer, mais ils sont plus jeunes par rapport à tous ces gens qu'on a cités. Hein. Donc, ça sera peut-être l'objet d'une autre rencontre avec votre radio. Voilà.
Un grand merci à vous deux et à bientôt.
T'es content de faire un peu l'historique du ski de fond dans le Briançonnais. Sûrement qu'on a oublié beaucoup, beaucoup de monde.